Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Claudie Gallet, bonjour.
Bonjour.
On se rencontre aujourd'hui pour échanger autour de votre dernier roman, Une part de ciel, paru chez Actes Sud tout récemment. J'ai oublié la date de parution.
Le 20 août.
Le 20 août, donc effectivement, il y a tout juste un mois. Vous allez rencontrer ce soir à la librairie La Boîte à Livres à Tours vos lecteurs. Et puis vous nous faites le plaisir de nous accorder quelques instants avant le passage obligé à la télévision Tourangelle, TV Tour. Alors donc, Une part de ciel est un roman qui raconte les retrouvailles d'une fratrie dans un contexte particulier, qui est celui d'un rendez-vous que leur a fixé leur père, qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps. Moi, j'ai été immédiatement intriguée par le fait que ni les uns ni les autres ne savent quand exactement ce père va reparaître. Ils savent seulement qu'ils ont rendez-vous avec lui, parce qu'il leur a annoncé son retour en leur adressant à chacun, pour unique message, une boule à neige. Est-ce que j'ai bien posé le cadre ?
Oui, c'est tout à fait ça.
D'accord. C'est un bon point déjà, on est bien parti.
Ouais.
Alors la chose qui m'a le plus frappée dans votre roman, c'est une impression de magie. Pourtant, alors paradoxalement, vous posez un tableau, un décor de façon très concrète, parfois dans l'écriture un peu même abrupte, avec des phrases très courtes. Donc vous proposez une description précise du lieu de ce rendez-vous, en l'occurrence le massif de la Vanoise, ses habitants, ses problématiques, problématiques très, très concrètes, hein, puisque par ailleurs il est question d'urbanisation, de projets, ce genre de choses. Et pourtant, immédiatement, au milieu de tout ça, il y a la magie plane, une magie qui s'opère entre ces trois personnages principaux, qui sont frères et sœurs et qui se retrouvent. Attendant leur retour. Voilà, des frères et sœurs très différents les uns des autres. Cette impression de magie, est-ce qu'elle était voulue ? Est-ce que c'est moi seulement qui l'ai perçue comme ça ou...
Non, c'est venu avec l'écriture. C'est un endroit tellement improbable. C'est un bout du monde, ce petit Val des Sols, près de Modane. Personne presque ne s'arrête là. C'est un village avec une route, les voitures passent, voilà. Et pourtant, des gens vivent ici. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon écriture, mais depuis l'origine de mes romans, c'est d'aller chercher ce merveilleux, c'est d'aller chercher ces richesses dans des endroits où on n'irait pas forcément. Donc, on se perd, comme vous dites, il leur envoie des boules de neige, ces petites boules en verre, quand on secoue, il y a de l'eau. Voilà, je trouve que c'est en tout cas que c'est intéressant. Et puis moi, je fonctionne comme ça dans la vie, quand je regarde les choses, j'aime bien voir la poésie qu'il y a. C'est la poésie, de la magie, mais aussi, voilà, de la poésie.
Alors, la poésie, moi je disais la magie aussi, mais... la magie dans ce lien qui unit ces trois personnages principaux qui sont donc les frères et sœurs, qui semblent très différents, qui n'ont pas de quoi que ce soit de commun en fait, hein, pour être voilà, comme si en fait ils vivaient habituellement les uns à côté des autres sans véritable affection, mais pourtant, dans ce contexte très particulier du retour du père, il y a des choses qui jouent et un lien qui leur semble qui semble transcendant en fait.
Il est fondamental, c'est le lien qu'il y a entre des frères et des sœurs. Malgré les années, ces trois-là se sont quittés il y a très longtemps, leurs relations se sont effilochées, ils ne se parlent presque plus. Carole est partie, elle est à Saint-Étienne, elle est dans une autre géographie, dans un autre territoire. Les deux autres se ressemblent un peu, le frère et Gabi sont plus proches parce qu'ils vivent ensemble, donc ils partagent du quotidien. Mais celle qui est partie, c'est compliqué quand on s'en va, quand on est... Et après ils vont se retrouver, mais moi ce que j'ai aimé gratter avec ce texte, c'est que justement, malgré les années, et si on prend le temps... Il faut prendre le temps. On arrive. Ce lien-là, il ne s'en va jamais. Frères, sœurs, on se retrouve. Ils sont là et ces fils se renouent.
Se renouent comme ça. Et comme par magie. Je suis désolée, j'insiste un petit peu sur, sur ce terme, parce que c'est
Ça serait la magie du temps, alors, parce qu'il se donne du temps.
Oui.
Elle, Carole ne repart pas d'habitude, elle vient, elle passe une semaine, 10 jours, et puis vite, elle s'en va. Mmh. J'allais dire, elle fuit,
oui.
C'est un peu ça, parce qu'elle ne veut pas prendre de temps avec eux. Tout. Et tout d'un coup, parce qu'ils attendent le père, il y a ce prétexte-là,
ouais.
Eh bien, voilà, ils vont pouvoir se retrouver. Mais il se donne du temps. En tout cas, Carole donne du temps à cette relation.
Alors moi, j'étais un petit peu surprise par le titre donc, de ce roman, Une part de ciel. Bon, j'avais très envie de vous redécouvrir après le succès notamment des Déferlantes, hein, qui vous a fait connaître au grand public.
Ouais.
Là, ce titre, je vais être honnête, ne m'a pas franchement emballée. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le choix de ce titre, Une part de ciel ?
Pour moi, Une part de ciel, c'est... Tous les personnages ont un rêve. C'est, on revient sur le lieu qui est rude, c'est pas un lieu facile, on est loin de... Mais ils ont tous, à leur niveau, que ce soit Diego, le serveur du bar avec son,
oui.
avec son amour caché pour Gabi, que ce soit Gabi avec son rêve de maison en dur, elle habite dans une vieille caravane, et son rêve c'est sa maison en dur, la part de ciel, c'est ça, c'est cette part de rêve qu'on a tous en nous, et qui nous aide à vivre, qui nous aide à survivre, qui nous aide... Alors bien sûr, il y en a qui ont des parts de ciel énormes, et puis il y en a pour qui c'est des choses beaucoup plus simples, mais c'est ça, c'est la quête de l'absolu, c'est ce quelque chose qu'on a, et quand on en parle, ça nous fait lever les yeux, et on se dit, ouais, je vais tendre vers ça, j'ai envie de ça, j'atteindrai peut-être pas... C'est... La part de ciel, pour moi, c'est Gabi. Diego porte un amour... Pour Gabi, il ne le dit pas parce que Gabi en aime un autre. Ou... Là aussi, il va falloir du temps. Et c'est sa part de ciel. Mmh. Il le dit à un moment parce que c'est son rêve. C'est encore inaccessible, mais c'est pas si loin. C'est ça. On a tous en nous une part de ciel. Voilà ce que c'est.
Un espoir.
C'est l'espoir. C'est l'espoir d'un avenir meilleur. Ben c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui puis qu'on attend demain, qu'on a envie d'atteindre. Moi, je suis là ce soir, ma part de ciel immédiate, c'est que ce soir, à la librairie, je rencontre mes lecteurs, et il paraît qu'il y en a. Donc,
oui.
J'aimerais ça. Voilà, j'attends. Et c'est ce qui fait que, ben, voilà, il y a les yeux qui s'allument, il y a le cœur qui bat, puis on a envie de vivre. C'est ça, la part de ciel.
Vous avez, je trouve, un talent particulier pour faire vivre des personnages. Carole, la personnage principal, on peut le dire comme ça, est extrêmement vivante, très présente, à tel point qu'on pourrait envisager votre roman comme une autofiction ou une autobiographie, mais pourtant, manifestement, il semble que ça n'en soit pas une. Alors, comment faites-vous pour rendre vos personnages à ce point vivants, les faire naître et s'incarner comme s'ils existaient pour de vrai, quoi ?
Je les creuse. Ils n'existent pas dans la vraie vie. Ils viennent. D'abord, il y a le lieu. Quand je commence un roman, là, il y avait cette région de Modane. J'avais envie d'une géographie rude. J'avais envie de l'hiver, de la neige qui recouvre les choses, du silence, pour que la confidence puisse se faire, pour que des retrouvailles aussi difficiles ne pouvaient pas se faire en 2 jours. Il fallait du temps et il fallait ce climat-là. Et j'ai oublié la question.
La question, c'est comment faites-vous pour les faire s'incarner à ce point qui nous semble tellement vrai, tellement... Est-ce qu'il y a une part d'observation autour de vous ? Est-ce que c'est votre imagination
Au départ, c'est vrai que j'observe beaucoup. Avant d'écrire, je traîne beaucoup dans les villes, dans les cafés, pour voir les gens.
Mmh.
C'est important, la vraie vie. C'est très poreux, la vraie vie et les livres. Donc il m'arrive de prendre des choses, de remarquer des choses sur des gens que je croise, à qui je parle ou que j'écoute, j'entends, je tends beaucoup l'oreille, c'est important.
Mm-hmm.
Puis après, ils prennent vie tout seuls, ils prennent vie avec l'écriture. Mm.
C'est fascinant.
Ça, c'est fascinant. C'est la création.
Mm.
Là, on est dans la création. Parce que ce personnage que vous, au départ, qui n'est qu'une vague silhouette, Carole, au départ, c'était une silhouette comme ça, qui marchait, qui arrivait au Val des Sols, je la voyais. Et puis petit à petit, vous la creusez, puis vous la... Au bout d'un moment, on les connaît. Gabi, Gabi, elle rentrerait là, elle ouvrirait la porte, rentrerait. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas. Et puis, bon, il faut quand même de longs mois pour écrire un livre. Donc, tous les jours, on est avec eux.
Mm-hmm.
Donc, on finit par les connaître.
Par les connaître.
Par les faire exister.
Alors, j'ai vu une interview de vous, en fait, où vous disiez que le corps de l'écrivain souffre quand il écrit. C'est pas quelque chose qu'un lecteur envisage vraiment la plupart du temps. On peut imaginer l'ébullition, oui, effectivement, dans le cerveau, mais pas un corps tourmenté. Ça vous dit quelque chose,
cette interview? Je me souviens. Oui, oui.
Alors, c'est quoi, en fait, les souffrances physiques d'un écrivain?
Les souffrances physiques de l'écrivain, c'est déjà d'être de longues heures à la table. Alors, soit on écrit à la main, moi j'écris beaucoup à la main, je rentre tout ce travail, ce que j'ai besoin, c'est... Ça va, l'ordinateur va trop vite, donc il faut que ça passe par le corps, il faut que ça passe par ça. Donc, physiquement, vous passez de longues heures à la table, donc le corps physiquement souffre, pas que la tête. Et puis, c'est un rythme de vie très particulier. Quand vous êtes, on parlait des personnages, mais quand vous partez dans une histoire, mais il n'y a plus d'horaire, c'est-à-dire vous mangez n'importe quand, vous mangez, enfin moi en ce qui me concerne, je mange n'importe quoi, à un moment j'ai faim, je me rends compte, l'estomac réclame, ben vous ouvrez le frigo et puis il y a ce qu'il y a, et puis vous prenez parce que l'urgence, elle est essentielle, c'est ça, c'est de continuer, c'est de ne pas lâcher ce fil, il est fragile. C'est les longues heures qu'on passe à la table quand on écrit, quand donc le corps, le dos, les os, l'ossature, ça on le ressent, c'est pas quelque chose d'anodin de passer des journées entières à la table. Quand vous tenez un stylo à la main et que vous écrivez une histoire à la main, vous n'écrivez pas les mêmes choses que si vous le tapez sur l'ordinateur. Il n'y a pas de distance, et ça c'est important pour trouver les bons mots et pour que ça sonne. Et après il y a le quotidien. Quand on écrit, on est immergé dans une histoire avec des personnages. Et
vous mangez plus
Je mange mal. Je me nourris. Donc le corps, le corps souffre parce que il passe au second plan. Donc après, quand le livre est fini, on apprend à réguler tout cela et c'est très agréable.
Un peu comme une compétition, en fait, finalement. Enfin, la préparation, finalement. Est-ce que vous vous préparez avant de commencer quelque chose, physiquement et psychologiquement?
Non. Psychologiquement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un manque. Là, j'ai rendu mon roman il y a quelques mois déjà, et là, je sens que physiquement... Et intellectuellement, il y a le manque de retourner à ça, de retourner à l'écriture, de retourner à cette vie très particulière. Ouais.
Alors, écrivain, je crois que ce n'est pas votre premier métier. Il me semble que vous étiez institutrice.
Oui.
Bien sûr, animée d'une passion pour la lecture et l'écriture. Alors, ce qui est étonnant, quand on voit maintenant le succès que vous rencontrez, c'est que vous avez essuyé, je crois, quelques déconvenues avant d'être publiée, des refus de vos manuscrits, et pourtant, vous ne vous êtes jamais découragée. Enfin, a priori.
Non, mais c'est important. Il ne fallait surtout pas que ces romans soient publiés. Je les ai gardés. Mais oui. Oui, un refus, il ne faut pas voir... Enfin, moi, je n'ai jamais vu dans le refus une sanction.
D'accord.
C'est que ce n'était pas à la hauteur. C'est que ce n'était pas... Il ne fallait pas, voilà. Mm-hmm. Donc, oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de romans qui ont été refusés. Un refus peut être une chance. Mm-hmm. Et parce que ça vous pique. Aussi, si on vous refuse, c'est que on n'est pas. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant aussi. On vous refuse. Donc, qu'est-ce que j'avais mis beaucoup, mais ça ne suffisait pas. Mm-hmm. Donc, voilà.
D'accord. Parce qu'en fait, je voulais vous demander si vous aviez quelques conseils à donner à partir de votre expérience à un auditeur qui aurait des velléités d'écriture à des fins de publication, hormis justement cette ténacité à conserver malgré le refus. Et voir quelque chose de positif dans le refus.
Ça, c'est essentiel, en tout cas. Ouais. La ténacité. De toute façon, si vous avez envie d'écrire, si vous avez ça au ventre, il faut le faire. On ne lâche pas sous prétexte qu'on n'est pas publié tout de suite. Je discutais tout à l'heure avec la libraire de la librairie où je vais me rendre tout à l'heure. On parlait des premiers romans que j'ai écrits qui ont été publiés et qui se sont très peu vendus. L'Office des Vivants, Mon Amour, Ma Vie. Il y avait une lectrice qui était là-bas qui avait énormément aimé Mon Amour, Ma Vie. Ce texte, quand il est sorti, presque personne ne l'a lu. Et maintenant, les gens le découvrent. Ouais. Donc, quelqu'un qui écrit, il faut qu'il écrive et qu'il soit honnête avec lui, qu'il ne cherche pas à faire comme les autres, qu'il ne cherche pas à faire comme ceux qui sont connus. Il faut qu'il trouve sa voix intérieure, sa voix VOX. C'est ça qu'on demande à un texte. Qui ait une voix, qu'on entende quelqu'un qui raconte les choses comme personne. Et puis tenir, et un jour ça marche.
Bien, je vous remercie beaucoup, Claudie Gallet. Vous allez partir là pour l'émission de télévision d'un petit poil en retard. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien et j'espère que nos auditeurs auront plaisir à vous découvrir à travers ce dernier roman, Une part de ciel, paru chez Actes Sud. Merci, bonne soirée.
Merci.
C'était l'interview des poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux.